Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Cette semaine, pour le dernier épisode de la saison, on va aborder un sujet qui sent bon les vacances, l'idée de voyager seule quand on est une femme. En route, Moussaïon et capitaine.
Alors, on tient à préciser que si vous ne partez pas en vacances, ça arrive aussi, ouais. Vous pouvez quand même écouter cet épisode. Comment ça va, Mélanie ?
Eh bien, écoute, ça va. L'été est enfin arrivé.
Oui.
Je suis prête pour ce dernier épisode de Quoi de Meuf de la saison. Alors, en ce moment, j'ai un peu... Un petit fétiche, j'ai emprunté plein de livres à la bibliothèque parce que l'été, j'ai découvert qu'on pouvait les garder 6 semaines au lieu des 3 semaines habituelles. Mmh. Donc c'est super
bon plan.
Cool. Ouais. J'ai emprunté Frida Kahlo. Par Frida Kahlo, c'est un recueil de correspondances de lettres qu'elle a écrites à partir de l'âge de 16 ans. Donc les premières lettres sont très... Ça m'a rappelé mon adolescence. Et en fait, dans ce recueil, on apprend qui elle était vraiment, en fait, Frida Kahlo. Parce que, bon, on sait que c'est une peintre et une activiste communiste. Mais le capitalisme, là, je trouve un peu disneyifié, quoi. Avec la poupée Barbie, le côté... Elle apparaît dans le dernier Pixar, comme si elle avait toujours été gentille.
Elle est complètement récupérée et lissée, quoi.
Alors qu'en fait, c'était une vraie rebelle. C'était une meuf qui aimait pas beaucoup de monde. Et elle a beaucoup parlé de dépression, de handicap. Donc,
elle avait le dos en miettes.
Ouais, et elle s'est fait amputer d'une jambe. Enfin, voilà, c'est vraiment une meuf... c'est mon idole. Et toi ?
Donc moi, pour parler de voyage, j'en reviens, donc ça tombe bien, puisque j'ai été me ressourcer dans un havre de paix, New York. Et j'ai été ravie de voir que c'est un endroit où tout le monde s'en foutait de la Coupe du Monde.
Ouais.
Donc ça a été un vrai soulagement pour moi de partir en fait à ce moment-là. Et donc j'ai pris ma dose de féminisme annuelle. Donc j'ai été dans ma librairie féministe préférée qui s'appelle Blue Stockings. Allez-y. Et j'ai été aussi dans un sex shop tenu par des meufs. J'ai été à une conférence sur les règles pour la sortie d'un bouquin. Et j'ai pu remarquer que MeToo avait beaucoup plus de résonance là-bas qu'ici. Donc
ouais.
On en a beaucoup parlé... avec les amis que j'ai vus, donc c'était chouette. Et quand on a été dans des salles de concert, on a vu qu'elles étaient inclusives, qu'il y avait des panneaux contre le harcèlement. Enfin voilà, c'est vraiment le monde à l'envers par rapport à ici. Il y avait des panneaux partout pour la Pride. Et pour faire le lien avec l'épisode précédent, j'ai aussi lu Not That Bad, qui est une collection d'essais sur la culture du viol qui a été éditée par Roxane Gay, donc l'autrice de Bad Feminist. Et je vous le recommande chaudement. C'est vraiment... Enfin, c'est très déprimant, mais...
Mais c'est bien.
Ouais, c'est super. Dans cet épisode, on va parler du voyage au féminin. Mais comment ça se fait, puisqu'on est en 2018 et qu'a priori, on n'a plus besoin de chaperon ou de chaperonne, a priori. Donc pourquoi est-ce que l'idée de voyager seule quand on est une femme adulte fait encore débat ? Bah déjà, c'est une question historique, puisque pendant des siècles, les femmes ont été considérées comme des mineures, non responsables de leur corps et de leurs actes. On rappelle qu'encore aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, ou dans beaucoup de pays, en tout cas, elles n'ont pas accès aux droits les plus élémentaires. Et c'est vrai que l'enjeu du déplacement, qui suppose quand même une certaine émancipation, une certaine indépendance, reste très fort, en fait, symboliquement.
Ouais.
Donc une femme qui voyage est une femme libre. Quand on est une femme qui voyage seule, on défie les conventions, puisque l'espace public est souvent pensé par et pour les hommes.
Ouais.
Donc voyager seule, on peut dire que c'est déjà un acte féministe, un acte politique, même si ça a l'air de rien en fait, comme ça. Ça a l'air un peu anodin, quoi, un peu futile.
Ouais. Et puis voyager pour découvrir le monde et des cultures différentes, toujours dans le cadre de l'émancipation féminine, c'est aussi politique, en fait, parce qu'elles sont censées rester à leur place, entre guillemets, les femmes. On connaît beaucoup d'aventuriers, de découvreurs, de colonisateurs. Merci Christophe Colomb. Mais comme d'habitude, l'histoire avec un grand H a quand même encore du mal à donner leur dû aux grandes aventurières. Et pourtant, c'est pas ce qui manque, en fait, les grandes aventurières qui ont sillonné le monde. Donc, on va faire quelques portraits de femmes qui ont voyagé seules et qui ont changé le monde à leur manière.
Ouais, c'est toujours bien d'avoir des exemples auxquels se référer.
Ouais.
Moi, le plus connu À mon sens, c'est Nellie Bly qui a été surnommée la meilleure journaliste de l'Amérique.
Yeah.
En fait, son objectif à elle, c'était de battre le fameux Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. C'était une journaliste qui était spécialisée dans les conditions de travail du monde ouvrier et particulièrement des femmes ouvrières. C'était une pro du reportage clandestin, comme Albert Londres, qu'on a retenu puisque c'est un mec. Elle aussi, elle s'est faite passer pour une patiente atteinte de troubles psychiatriques dans un asile pour décrire les conditions de l'intérieur. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est toujours très compliqué de ressortir de l'asile ensuite.
Je n'étais pas folle.
C'est ça, venez me chercher. Et donc, son chef, qui était le rédac-chef du journal The World, c'était Joseph Pulitzer.
Un mec pas trop connu.
Un nobody. Il a finalement accepté de l'envoyer en tour du monde après qu'elle l'ait tanné jour et nuit. Et donc, elle a parcouru plus de 40 000 kilomètres entre fin 1889 et début 1890. Et donc, elle a fait le tour du monde en 72 jours.
You go girl.
Bien ouais. Et pour la petite référence pop culture, on voit un personnage qui est inspiré d'elle dans une série de Steven Soderbergh qui s'appelle The Nick. Voilà.
On peut aussi parler de Jeanne Barré. Là, c'est plus proche de nous puisque ça se passe en France.
Ouais, moi, je la connaissais pas, j'ai honte.
Ouais, bah voilà. Alors, Jeanne Barré, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde, première femme française, entre 1766 et 1769.
Ah oui, ça date.
Donc c'est old, mais en gros la meuf, bien sûr, elle a dû se faire passer pour un mec pour être acceptée sur le bateau de la marine L'Étoile, qui, surprise, interdisait les femmes à bord. Donc elle se fait passer pour un certain Jean Barré, donc elle n'est pas allée chercher très loin pour le nom. Donc l'assistant botanique de Philibert Commerson, qui en vrai était son mec.
Ah d'accord.
Donc voilà. Donc pendant le voyage, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récupéré en fait des plantes un peu partout dans le monde pour les conserver et les ramener en France. Et le voyage s'est achevée en 1775, et elle a ramené de nombreuses espèces botaniques qui étaient jusqu'ici inconnues en France, et Louis XVI lui attribue une pension en remerciement de ses services.
Trop cool, donc ouais. Elle a quand même été reconnue pour son travail.
Voilà, donc après elle a dit finalement, et c'est aussi pour ça qu'après ils se sont dit, bon, peut-être que finalement les femmes, elles ont le droit de voyager, c'est quand même cool. Merci Jeanne Barré.
Il y a une autre américaine qu'on peut mentionner, c'est Annie Londonderry. Donc elle, ça se passe en 1894, à l'époque elle a 20 ans, et elle se poste sur les marches du palais du gouvernement à Boston, et elle déclare solennellement qu'elle sera la première femme à faire le tour du monde en bicyclette. Attention.
Ça m'a trop inspirée, je me suis dit, je vais faire la même chose dans la mairie du 18e.
Donc c'était quand même suite à un pari, on ne sait pas si elle était sobre ou pas. C'est vrai qu'il y a une longue tradition de discriminer les femmes à vélo,
ouais,
puisque
on
s'expose de manière impudique avec le postérieur en arrière, bref. Donc voilà, ça a toujours été mal vu. Le truc, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment fait de vélo en fait, avant de se lancer dans cette aventure, ce qui est quand même problématique.
C'est
et
ouf.
Donc elle a abandonné mari et enfant pour réaliser son rêve, et elle s'est fait sponsoriser par la société Londonderry, donc elle en a pris le nom ensuite. Et voilà, elle est passée par Marseille, par le Caire, par Shanghai, par Hong Kong, par Nagasaki. Et en 15 mois, elle a réussi son voyage. Elle a terminé triomphalement à Chicago avec d'énormes cuisses, à mon avis.
Et plus proche encore de chez nous, on a Alexandra David-Neel, qui est quand même assez connue en Europe. Donc son vrai nom, c'était Louise Eugénie Alexandrine Marie David.
Okay.
Elle est née en 1868 et elle est morte 101 ans plus tard.
Nice. Donc comme quoi, les voyages, ça conserve.
Voilà. La meuf, elle était journaliste, anarchiste, écrivaine, exploratrice, chanteuse d'opéra, comme ça.
Tout simplement.
Petit hobby à côté. Féministe, franc-maçonne, tibétologue et bouddhiste.
Okay.
Donc voilà. Elle a eu une vie bien remplie. Elle était française et belge, et elle a voyagé à travers l'Inde plusieurs fois. Et surtout, elle a été la première femme occidentale à aller au Tibet, où elle a même rencontré le Dalai Lama là-bas.
Incroyable.
Donc, je vous conseille les livres d'Alexandra David-Neel, parce que ma mère, quand j'étais petite, en avait plein. Elle lisait ça à la chaîne, et du coup, je me suis toujours posé la question. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah ouais, trop bien la meuf. Quoi.
Ça peut être une lecture d'été, justement, à recommander.
Sur la plage. Et du coup, maintenant, on va écouter le témoignage de Lorraine, qui est journaliste et voyage dans des pays où on ne penserait pas nécessairement aller. D'ailleurs, en ce moment, elle est en Irak.
Salut Mélanie, Clémentine. Là, je suis à Douk, dans le nord de l'Irak. Et je fais un reportage sur les massacres yézidis. C'est une minorité religieuse qui habitait avant dans une région voisine et maintenant qui est déplacée ici. À cause des massacres qui ont été perpétrés en 2014 par l'État islamique. J'ai commencé à voyager seule il y a plusieurs années. Et j'ai toujours beaucoup voyagé, mais quand j'ai démarré, j'étais surtout avec des copines, avec une bonne copine, on faisait du stop. J'ai traversé tous les Balkans avec elle. J'avais traversé plein de pays anciennement communistes au milieu des années 2000 parce que j'habitais en Roumanie. En fait, c'est en revenant dans cette région, ensuite dans les Balkans, que j'ai fait mon premier voyage toute seule. Et j'étais trop contente, j'étais trop heureuse et j'avais adoré. Et après, j'ai commencé à faire des voyages toute seule pour faire des reportages. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est devenu mon travail. Et je pense que c'est hyper libérateur quand on est une fille. C'est libérateur pour n'importe qui de voyager de manière générale, mais c'est vrai quand on est une fille, ça suscite beaucoup souvent des interrogations parce que aussi bien en France que dans le pays où on va, ou même si on voyage en France, les gens se demandent un peu toujours qui est cette fille qui voyage toute seule. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui sont associés à la femme qui voyage seule. Donc voilà, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance et les gens ont beaucoup tendance à m'aider. Voilà, donc en fait, il y a aussi un effet positif et même protecteur, je dirais.
Donc après tous ces témoignages inspirants sur des femmes aventurières, on voulait parler de notre expérience personnelle
de voyage. Vas-y.
Alors moi déjà, j'avoue que c'est pas trop mon truc de voyager seule, sauf pour le boulot. Et c'est vrai que je l'ai pas mal fait. J'ai été à Londres, à Los Angeles, à des festivals. J'ai aussi vécu à l'étranger.
À New York pendant 4 ans.
Voilà, à New York pendant 4 ans. Et je suis partie toute seule à l'époque et ça m'avait absolument pas fait peur puisque finalement j'ai été très bien entourée à la fac. J'ai eu droit à la full college experience.
Est-ce que ta vie, c'était un peu comme dans Gossip Girl quand ils vont à la fac
à NYU. Ouais, c'est un peu, ouais, donc j'étais dans la même fac que Gossip Girl, mais en version pauvre. Donc voilà, c'est-à-dire je n'avais pas une boniche à tout faire qui
une
dormait.
Limo qui te déposait pour les cours.
Donc rien à voir. Et c'était, en fait, moi, c'était juste avant l'élection d'Obama, donc ça date un peu. Et c'est vrai que c'est une expérience qui a un peu transformé ma vie durablement. Donc je regrette pas du tout. Mais moi, ce que je préfère, en fait, surtout, c'est de voyager seule, mais en allant chez des gens que je connais à l'étranger. Parce que je trouve ça très riche de connaître des gens sur place, plutôt que de visiter sans trop savoir. Et sinon, je suis assez indépendante, mais j'ai tendance à souffrir assez vite de la solitude. Avec le fameux syndrome, je finis par me parler à moi-même au pied des pyramides.
La malédiction comme dans Tintin.
C'est ça. Et donc, par exemple, j'ai été au Brésil l'année dernière. J'ai été toute seule faire une randonnée sur une île et j'étais complètement flippée au début. Ouais. Je me dis que j'allais me faire assassiner par des singes dans la jungle. Voilà. Et puis, en fait, finalement, je me suis sentie très zen à la fin grâce à l'effet de la marche, en fait. Et c'était loin d'être évident. Et voilà. Sinon, pour terminer, moi, j'essaie de voir le voyage si possible, pas comme une fin, c'est-à-dire pas comme une fuite en avant, mais comme un moyen, par exemple, de faire des reportages. Et c'est quelque chose dont Mona Chollet parle très bien dans son essai « Chez soi ». Voilà, sans parler des problèmes éthiques que ça peut générer, des problèmes de pollution.
Ouais, le voyage de masse.
Voilà. Ouais. Et toi, je sais que tu aimes bien voyager seule, contrairement à moi, ça ne te fait pas peur.
Eh ben, en fait, moi, depuis que je suis petite, ça a toujours été un de mes rêves de voyager. Donc, justement, Alexandra Davinel, le Tibet, tout ça, c'est un truc qui m'a toujours parlé, quoi. Mmh. Donc, je ne suis pas encore allée au Tibet pour information. Mais ces dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager un peu plus, en fait, et de réaliser un peu plus cette envie-là. Mais effectivement, voyager seule, c'est ma manière préférée, en fait, de voyager. Je sais pas, j'adore le fait de dépendre de personne, le fait d'être forcée de me faire confiance, en fait. Parce que, tu vois, je pense comme tout le monde, on a des doutes sur ses capacités, de ce qu'on peut faire et tout. Mais quand t'es seule, bah, t'es obligée, en fait, de gérer. Et du coup, j'aime bien aussi l'idée de pas avoir à faire de compromis. C'est-à-dire que si j'ai envie de rester au lit jusqu'à midi parce que j'ai fait la fête la veille et que je me lève et qu'après...
Tu dois pas faire de planning avec quelqu'un.
Tu vois, dire, ah bah non, moi j'ai envie de rester à la maison, moi j'ai envie de sortir. Bah non, c'est toi qui t'organises.
Ça sent le vécu.
Et du coup, tu peux visiter toute la journée, partir à l'aventure le soir, rencontrer des gens, boire des verres.
Et en plus, t'as pas peur de prendre l'avion.
Non, moi, j'ai pas peur de l'avion. Je suis même plus à l'aise dans l'avion que partout ailleurs, je sais pas. J'aime bien les couvertures, regarder les séries, enfin bref. Mais il y a 2 ans, je suis allée pour la première fois en Asie, toute seule, effectivement. Et pareil, ça a vraiment radicalement changé ma manière de voir le monde et de me voir moi aussi pour le coup. De voir que j'étais capable de faire des choses dont je ne me pensais pas capable. Mmh. Tout ce que j'aime pas vraiment chez moi, le fait d'avoir des peurs irraisonnées, tout ça, bah ça j'ai eu l'impression que c'était beaucoup moins prégnant quand j'étais là-bas parce que j'étais responsable de moi-même en fait. Par exemple, quand je suis arrivée à Hong Kong, ils ont perdu mon bagage. En fait, en vrai, c'était toujours un scénario où je me disais je vais paniquer complètement. Mmh. Et en fait, j'étais très calme, j'ai rempli le petit papier. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller à H&M, je vais m'acheter des culottes. Enfin, j'étais pas stressée, ouais, quoi.
Et t'as improvisé.
C'est ça, exactement. Du coup, tous les jours, je découvrais quelque chose de nouveau. Et à la fois à l'extérieur, parce qu'il y avait énormément de nouveautés, mais aussi à l'intérieur de moi-même. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est débloqué en moi. Quand je suis rentrée en France, j'ai vécu une mini déprime.
Oui, je me souviens.
C'est dur. Et il se trouve effectivement que j'ai eu un coup de cœur pour Hong Kong, parce que c'est une ville hyper cosmopolite. Comme je dis souvent, c'est un genre de New York, mais dans la jungle. Donc, c'est une île et du coup, on peut faire aussi bien de la rando qu'aller à la plage, flâner dans les vieux quartiers, aller voir les buildings. Enfin, c'est très, très riche. C'est typiquement chinois. Et Hong Kong, c'est un peu une ville qui dort jamais, mais en même temps, c'est assez indéfinissable. Et du coup, c'est vraiment grâce à Hong Kong que ce voyage qui me terrifiait au départ, la veille, je me disais non, mais en fait, je vais pas y aller, c'est horrible, j'ai trop peur. Ben, en fait, ça s'est avéré l'une des meilleures expériences de ma vie, quoi. Et ensuite, je suis allée à Séoul, l'année suivante, je suis retournée à Hong Kong, en Thaïlande, à Tokyo, au Japon. Et du coup, c'est vraiment, l'Asie, c'est vraiment devenu quelque chose où je me sens, enfin, un truc qui m'attire, quoi.
Ouais, maintenant, c'est sur ma to-do list, Hong Kong.
Oui! Trop bien! Je vais être la représentante officielle de l'Office du tourisme de Hong Kong, quoi.
Et sinon, pour revenir à nos moutons, on se demandait quelle était l'influence du sexisme autour du voyage féminin en solitaire.
Ouais. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il existe énormément de mythes sur le fait de voyager seul. On rappelle, comme d'habitude, que l'éducation des filles est conçue pour instiller la peur, en fait, pour les garder dans la conformité.
Mmh. Oui, n'y allez pas.
Voilà, la peur de l'extérieur, en fait, pour garder les femmes au foyer. Donc, c'est peur de l'extérieur, peur de s'exprimer comme on le veut, peur de sortir toute seule la nuit, peur du viol, entre autres. Mmh. Donc, forcément, ces peurs-là avec lesquelles on est éduqué, ça se révèle au moment de penser à voyager seule. On envisage systématiquement de voyager avec un homme ou en famille ou entre amis, mais seule, on se dit, ah là là, mais il pourrait arriver tellement de trucs, surtout quand on sait que 16% des femmes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol au cours de leur vie. Donc, ça, c'est une statistique. Mmh. Et on se dit, si on s'éloigne de notre lieu de vie, ça va empirer, bien sûr.
Oui, alors qu'en fait, les viols, c'est souvent des proches près de chez soi. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Pour ça, on a compilé une petite liste non exhaustive d'idées reçues qui nous empêchent souvent de penser qu'on pourrait voyager seul et qui sont souvent liées à l'idée qu'on se fait de la sécurité, qui n'est pas toujours réaliste en fait. Donc il y a l'idée de subir une agression physique ou morale, de ressentir une solitude insupportable, ça je peux confirmer, de commettre des erreurs, de se mettre en danger, le manque de confiance en soi, le manque d'argent et le fait de se sentir loin de ce qu'on aime. C'est déjà des choses qui peuvent nous arriver même quand on est dans notre ville d'origine en fait. Ouais. Et c'est des peurs en fait qui prennent généralement un sérieux coup dans l'aile quand on commence à voyager, qui se dissipent comme tu l'as dit. Et donc quitte à planifier à l'avance, on peut aussi mettre chaque mois un peu d'argent de côté, lire des guides et des biographies de femmes voyageuses, ça sert à s'inspirer en attendant.
Ouais. Et franchement, à la lumière de notre expérience, est-ce qu'on peut aussi parler des bénéfices et des inconvénients ? Enfin, parce que toutes les peurs, c'est des choses qu'on a priori avant d'avoir voyagé, et une fois qu'on a voyagé,
C'est beaucoup d'anticipation en fait, fantasmée.
Exactement. Et une fois qu'on a voyagé, on a quelque chose qui peut-être plus tangible en fait,
ouais,
et plus réaliste.
Qui perdure aussi après le voyage.
Effectivement. Donc moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une indépendance. Le fait de voyager seul, comme j'en ai parlé. Le fait de choisir où on veut aller, ce qu'on veut visiter, expérimenter. Le fait de choisir vraiment ses expériences.
Ouais. Et hors des sentiers tout tracés.
Exactement. Hein. Après moi, sur le concept de la solitude, pour être honnête, je suis plus en proie à la solitude ici chez moi que quand je suis en voyage. Alors, je sais pas si c'est parce que je voyage différemment, mais en tout cas, moi, par exemple, quand j'étais en Asie, je me suis jamais sentie seule. C'est-à-dire, j'ai rencontré tout le temps plein de gens, notamment dans les auberges de jeunesse, dans les hôtels. J'ai vraiment fait des soirées avec des gens avec qui j'ai gardé le contact encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on peut faire toujours de belles rencontres un peu partout pourvu qu'on reste suffisamment ouverte et qu'on n'hésite pas à aller vers les autres. Après, c'est aussi une question de confiance en soi. La dernière chose que j'ai vraiment à souligner, c'est qu'on ressent un peu les choses d'autant plus fort parce qu'on se sent responsable de soi-même, mais aussi, surtout, on suit son intuition. On se dit, voilà, ah, là, je le sens pas, je vais pas le faire. Et puis des fois, ah si, ça, faut que je le fasse. Et souvent, c'est la bonne solution, quoi.
Et il y a aussi l'enjeu de la liberté des femmes dans l'espace public, puisqu'il y a souvent des différences culturelles avec ce que les femmes peuvent faire dans l'espace selon les pays. Là encore, il faut écouter un peu sa boussole intérieure.
Son intuition.
Aude Mermillot, qui est blogueuse voyage et illustratrice BD, elle conseille de discuter avec les femmes locales qui restent les plus à même de nous conseiller sur les endroits à éviter ou les attitudes à ne pas adopter. Toujours avoir un châle à portée de main ou arborer une fausse alliance, ça peut être une stratégie. Il ne faut pas oublier qu'être une femme n'est pas un handicap en voyage. Au contraire, on attire plus la sympathie et l'entraide que les hommes. Et à ça, j'ajouterais que parfois, on passe souvent inaperçu, en fait, ce qui a un effet qui peut être un effet du sexisme, en fait.
Ouais, les femmes, c'est pas important.
On s'en fout de nous, donc finalement, voilà, ça permet de voyager plus facilement. Et une copine qui a fait le tour du monde en van me disait récemment qu'elle se sentait moins en sécurité en France, en fait, à cause du harcèlement de rue qu'à l'étranger.
Donc, je sais pas, mais par exemple, à New York, je sais que moi, ça m'avait choqué, quoi. Bon, après, c'est peut-être parce que j'étais aussi une touriste, mais... Je ne me suis pas fait emmerder, quoi. Enfin...
Ouais, moi non plus, alors que les Américaines se plaignent pas mal du harcèlement de rue, mais il faudrait qu'elles viennent en France pour voir. Et c'est vrai que les seules personnes qui viennent te parler viennent te féliciter pour ta tenue. Et donc, en général, tu te dis « Oh, non, pourquoi on vient m'agresser ?» En fait, les gens sont là « Ah, j'adore ton short !» Et tu es là « Ok, c'est génial, merci !» Donc voilà, en règle générale, renseignez-vous en amont sur la culture, observez les habitants, essayez de vous conformer autant que possible à ce qu'ils portent. Le site tourdumondiste.com a mené de son côté une étude auprès des utilisatrices et explique qu'en dehors des agressions sexuelles, il ressort de notre enquête que les femmes ne sont pas plus victimes d'agressions que les hommes. Donc 5% des femmes et 6% des hommes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La motivation est le vol dans l'immense majorité des cas. L'agression reste quasiment toujours au stade de la menace, puisque parmi les répondants à l'enquête, il n'y a eu aucun blessé. C'est plutôt encourageant.
Alors moi, j'ai une petite nota bene pour les femmes noires en voyage autour du globe, parce que effectivement, c'est quelque chose aussi de différent. Les personnes noires, la diaspora, en fait, ça se retrouve un peu partout. Enfin, moi, personnellement, dans tous les pays où j'ai été, j'ai toujours vu au moins une personne noire.
Mais parfois, une seule.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des comportements qu'on peut subir quand on est une personne noire, qu'on ne subit pas autrement. Dans certains pays, les gens vont vous arrêter et vous demander de faire des photos avec eux, juste parce que vous êtes noire, en fait. Donc, c'est à vous de décider jusqu'où ça va aller, mais vous pouvez toujours refuser, hein, poliment, parce que ça peut déclencher des files d'attente. Moi, j'ai vu ça à Hong Kong, des gens qui font la queue pour faire une photo avec une personne noire, quoi. Donc, c'est un peu malaise. En fait, vous n'êtes pas là pour faire un photoshoot si vous n'en avez pas envie. À Macao, moi, il y a une vieille dame qui m'a couru après dans la rue pour me toucher les cheveux, comme ça. Ouais. Et au Japon, c'est vrai que c'est un pays où l'immigration est très basse. Donc, il y a des personnes noires, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais on m'avait dit, fais attention, tu vas sûrement être confronté à des trucs. Et effectivement, plusieurs fois, on a refusé de s'asseoir à côté de moi dans le métro à Tokyo. Donc voilà, je tenais à souligner ça. Je pense qu'il y a des bonnes ressources sur Internet aussi sur ça, sur voyager quand on est noir, dont on va parler.
Après, il y a des spécificités physiques féminines au fait de voyager. Par exemple, comment faire quand on a ses règles à l'étranger ? Nous, on vous conseillerait plutôt la coupe menstruelle parce que dans beaucoup de pays, les tampons n'existent pas et que les serviettes sont de plus ou moins bonne qualité. Mais n'oublions pas qu'il faut avoir un accès à un point d'eau pour mettre la cup. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des ressources à conseiller ?
Oui, alors moi, je vais vous parler de podcasts parce qu'on peut les écouter un peu partout. Donc, c'est très pratique quand on voyage. Un podcast qu'on peut citer, c'est La Bougeotte, qui est présentée par Laura Fernandez-Rodriguez, Daisy Lorenzi et Marine Perrin. Donc, c'est un podcast de chez nous. Donc, c'est trois nanas qui interviewent des voyageuses et qui parlent de leur propre voyage. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Comment gérer l'argent sur la route, voyager avec une maladie chronique, la solitude... C'est vraiment sous le prisme du voyage au féminin. Donc, il y a un éclairage, notamment sur la République d'Iran, que Daisy a pas mal visité.
Moi, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance et de tolérance à mon égard parce que, enfin, il était évident que j'étais une occidentale qui ne connaissait pas la culture iranienne. Et moi, je fumais mes cigarettes tranquillement.
Donc, moi, je trouve que c'est un podcast qui est pionnier en France.
Alors, en anglais, il y a Out There, qui est présenté par Willow Belden.
Hi, I'm Willow Belden, and you're listening to Out There. the podcast that explores big questions through intimate stories in the outdoors.
Souvent, elle présente le sujet, elle laisse la parole à un autre ou une autre invitée qui raconte son expérience. Donc, il y a par exemple un épisode sur un voyage en vélo autour du Colorado, un voyage en Grèce après une rupture, qu'est-ce qui se passe quand on se plante en kayak en Alaska. Et c'est un podcast qui fait vraiment le lien entre la découverte de soi, l'introspection et la vie au grand air dans la nature. Donc, je trouve que c'est...
C'est très zen.
Ça permet de respirer. Ouais.
On peut aussi parler de On She Goes, qui est dérivé d'une plateforme digitale qui est dédiée au voyage, onshegoes.com. C'est un podcast américain auquel contribue l'une de nos favorites, donc Amina Toussaint.
Oui.
Hi everybody, welcome back to On She Goes season 3.
On peut aussi parler d'une autre ressource pour la même cible, les femmes de couleur, qui est la plateforme travelnoir.com, qui se présente sous forme de guide de ville et d'articles.
Et alors dans les guides de voyage, plutôt que d'avoir le guide du routard, il y a un livre féministe qui s'appelle La Guide de Voyage, qui a été créé par Charlotte Soulary. Pour l'instant, il y a uniquement celui sur Paris, mais il va y en avoir d'autres. Et c'est un guide qui permet de redécouvrir une ville sous le prisme du genre et des femmes, qui sont souvent oubliées. Donc ça coûte 15 euros. Je viens par ailleurs de faire un article sur
auto-promo.
Minute promo sur l'essor du tourisme féministe. Et pour ça, j'ai testé des balades à Paris qui s'appellent Women of Paris, qui sont en anglais et en français. Donc si vous venez de loin et que vous voulez rencontrer des filles cool, je vous le recommande. C'est mené par Heidi Evans. Moi, je l'ai testé sur la rive gauche et c'était super. Donc ça retrace l'histoire d'une ville à travers ces femmes.
Welcome to the Women of Paris Essential Tour. What I found is that we talked a lot about les grands hommes. In French, Napoleon Bonaparte, like Victor Hugo. And then we talked a bit about the bad women. And this wasn't fair to me. I thought there were all these other great women that I wanted to talk about.
Aux États-Unis, il y a deux initiatives que j'aime particulièrement. Une qui s'appelle Fat Girls Hiking. Donc, c'est un groupe de randonnées body positive qui existe dans plusieurs villes américaines. Par exemple, si vous n'êtes pas très athlétique et que vous êtes considéré comme étant en surpoids, vous avez quand même le droit de vous balader. Donc c'est bien de le souligner. Il y a aussi Girl Trek, qui est un réseau de femmes noires qui font elles aussi de la rando, puisque c'est souvent vu comme une activité très blanche, réservée aux personnes aisées. Et donc là, ça rend cette pratique-là accessible et ouverte à d'autres communautés. Donc c'est chouette.
Le moment pop culture.
Alors, côté pop culture, on peut souligner qu'elle adore les histoires de femmes indépendantes, souvent blanches,
évidemment,
qui vont se chercher spirituellement à l'étranger. Donc, la journaliste Elisabeth Gilbert est devenue célèbre avec ce livre qu'elle a écrit en 2006 qui s'appelle Manche, Prie, Aime.
Le fameux Eat, Pray, Love.
Voilà, exactement. C'est un succès tellement énorme qu'il a été adapté au cinéma en 2010 avec Julia Roberts dans le rôle titre.
Depuis que j'ai 15 ans, je suis soit en couple, soit en pleine rupture. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours, pour me pencher sur mon cas.
Le pitch de Manche Priem, c'est après un divorce difficile, Elisabeth est envoyée par son éditeur qui lui donne la modique somme de 200 000 euros pour voyager en Italie et en Indonésie.
C'est cela, oui.
Pour écrire des articles. Donc, c'est trois pays.
C'est très réaliste.
Je pense à ma situation, mais non. Juste non. Donc, c'est trois pays, effectivement, qui commencent par la lettre Hi. Donc, tu vois, c'est vraiment recherche spirituelle sur le moi. Et elle découvre le plaisir de manger à l'italienne, la prière et la dévotion dans un ashram en Inde. Et elle retrouve l'amour en Indonésie. Donc, effectivement, c'est une très belle histoire qui a fait florès. Le livre est sympa, mais effectivement, le phénomène qu'il a développé, je trouve qu'il est un peu disproportionné et qu'il répond très fortement à un besoin que les femmes entre 30 et 45 ans peuvent ressentir, celui d'être passées à côté un peu de leur vie et de leurs besoins jusqu'ici, et du coup, de s'y reconnecter par la découverte d'une autre culture qu'elles ont un poil caricaturée.
Et exploitée, parfois.
Voilà, exactement.
Alors, il y a un autre maître étalon du genre, c'est le livre et ainsi que son adaptation, c'est Wild, qui a été un énorme phénomène.
Trop bien, Wild.
Oui. Donc, ça a été écrit par Cheryl Strayed. Et donc, le livre est sorti en 2012. Et Oprah Winfrey l'a tout de suite mis dans son book club. Mmh. Et en fait, ça relate le parcours sur plus de 1000 km à pied de l'autrice, le long du Pacific Crest Trail, qui est un très long trek.
Chemin de randonnée, ouais.
Ouais, sur la côte ouest des États-Unis. En fait, elle l'a fait toute seule en 1995, après une rupture et après la mort de sa mère. Donc, c'était quand même, elle n'était pas en très bon état. Et c'est un voyage qui a changé sa vie, parce qu'à ce moment-là, elle était très paumée et toxicomane. Et aujourd'hui, c'est une autrice à succès. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter son podcast qui s'appelle Dear Sugars. Et donc, ça a été adapté au cinéma avec Reese Witherspoon, qui porte un énorme sac à dos, qui perd ses chaussures. Oui, c'est ça, qui a plus d'ongles d'orteil, qui est donc nu-pied dans la montagne. C'est un vrai survival dans la nature.
Ça me désole que tu t'affliges une marche de 1500 km rien que pour...
Finis ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres ?
Bon voyage, Cheryl.
Et depuis, en fait, tout le monde s'est mis à faire cette randonnée. Et je crois que même dans la série Gilmore Girls, ouais. L'un des personnages va faire, cette randonnée. Ouais. Et les gens lui demandent, vous venez pour le livre ou pour les films ? Donc voilà, elle n'est pas toute seule.
Mais le livre est très très bien. Enfin, moi, j'ai eu un choc quand je l'ai lu, quoi.
Très inspirant. Et sinon, il y a un autre film culte dont on peut parler, c'est Thelma et Louise. Un film qui date de l'époque où Ridley Scott faisait encore des films féministes, comme Alien. Donc on rappelle que c'est Gina Davis et Susan Sarandon dans La Fleur de l'âge qui animent ce buddy movie des années 90. Donc ça parle d'un week-end entre copines qui part en couille et qui se termine en cavale. Et c'est vrai qu'à posteriori, on se demande si c'est pas un avertissement un peu dissuasif, genre ne partez pas en week-end les meufs, ça va mal se finir.
Ça va se finir en meurtre.
Ouais, c'est ça. Bon, on en reparlera peut-être dans une autre fois si on aborde la question de la violence des femmes.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de meuf ? Alors moi, ma recommandation cette semaine, c'est la saison 2 de Glow sur Netflix.
Ouais.
Trop bien. Moi, j'avais bien aimé la saison 1. J'avais trouvé ça mignon, mais clairement, cette saison-là, elle est un niveau au-dessus, quoi. Enfin, Glow, je sais pas, pour ceux qui n'y ont pas vu, ça relate l'histoire de la création d'un show télévisé de catch féminin dans les années 1980.
Yeah.
Donc, les Gorgeous Ladies of Wrestling. Unconventional women, whatever that means. Hello, ladies. I'm Sam Sylvia, and this is Glow. Sorry, what's Glow? Gorgeous Ladies of Wrestling. Et c'est composé, en fait, c'était un show donc qui a vraiment eu lieu et qui était composé un peu d'actrices sans le sou, dont une certaine Ruth Wilder, incarnée
qui se recycle.
Par Alison Brie. Il y avait un réalisateur mégalo qui est incarné par Marc Maron et des producteurs véreux, quoi. Donc, cette saison 2 de Glow, elle est toujours riche en spandex et en paillettes, mais je trouve qu'on croit vraiment plus aux personnages et notamment à l'amitié qui se crée entre les participantes. Et je trouve aussi que le drame du divorce de Debbie, en fait, qui est incarné par Betty Gilpin, est vraiment bien traité, parce qu'on rappelle l'histoire dans le pilote de la série, c'est Alison Brie, son personnage... couche avec le mari de sa meilleure amie, donc un peu malaise, et elle se retrouve obligée de travailler ensemble derrière, donc voilà. Mais même, je trouve aussi, au niveau de la réalisation de la saison 2, il y a vraiment des avancées. Il y a un épisode notamment, je crois que c'est l'épisode 8, qui est entièrement chaud dans le show, où tu regardes vraiment le show glow tel qu'il était dans les années 80.
Ah, ouais.
C'est génial. Et les cascades aussi de catch, tu vois vraiment que les actrices sont beaucoup plus à l'aise en fait avec leur corps et l'athlétisme en fait que ça réclame. C'est hyper impressionnant, elles se prennent par les jambes, elles se jettent à travers le ring, enfin c'est assez ouf. Après, il reste quand même le côté un peu cheap de certains personnages, parce que effectivement, dans les années 80, ça faisait pas du tout polémique, mais il y a des personnages hyper racistes, quoi, genre Fortune Cookie pour la chinoise,
ouais.
L'autre, comment elle s'appelle ? Beyrouth, c'est genre une terroriste du Moyen-Orient avec de la dynamite et tout. Donc voilà, et je trouve que malgré le recul d'aujourd'hui que la série peut avoir, ça fait quand même un peu chier de voir toujours des personnages comme ça... Enfin, ces représentations-là, quoi, dans des séries modernes, voilà.
Moi, j'ai regardé le début de la saison 1, mais j'ai pas continué.
Ouais.
Donc,
saison 1 démarre un peu lentement, après, ça devient vraiment bien, mais la saison 2, c'est vraiment super, quoi. Moi, j'étais assez surprise, je me suis dit, waouh.
Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister, donc
ouais.
C'est déjà bien.
Glow.
Alors moi, je voudrais recommander du stand-up sur Netflix.
On fait vraiment de la pub à Netflix.
Hein. Ouais, en ce moment, c'est un peu abusé. Bon, moi, c'est la comédienne Tig Notaro dont je voudrais parler, puisque c'est une des personnalités les plus attachantes, je trouve, de la comédie américaine. Surtout qu'elle a enchaîné vraiment beaucoup de revers de fortune ces dernières années. Donc, elle a à la fois eu un cancer du sein, Ensuite, sa mère est morte. Ah. Voilà. Elle s'est fait connaître parce que Louis C.K.
ennemi de quoi de meuf.
Ouais, c'est ça, pré-scandale, a parlé d'elle sur les réseaux sociaux au moment de son cancer du sein. Et donc, elle est devenue connue grâce à lui. Et ensuite, elle a eu une série, en fait, produite par Louis C.K. Qui s'appelle One Mississippi, qui a été annulée depuis.
Et donc, mais d'ailleurs, c'est une des premières à avoir dénoncé ce qu'il faisait, quoi.
Ouais, et à en avoir parlé, en fait, dans la saison 2 de sa série, où il y a un producteur comme ça qui s'exhibe sexuellement à ses employés. Donc maintenant, je pense qu'ils ne sont plus amis, tant mieux. Et en fait, c'est une comédienne qui a eu le cran d'exhiber la cicatrice de sa double mastectomie sur scène, donc c'est quand même pas rien. Et donc là, elle fait un nouveau spectacle qui s'appelle Happy to be here, où elle revient sur scène.
For the majority of my adult life, I have been mistaken for a man at least once a week. Probably nobody here is like, eh, we're gonna need some examples.
Pour le coup, elle évoque vraiment le retour à la normale de sa vie. Elle est en couple avec une femme, ça se passe bien. Elles ont deux enfants. Elles ont aussi un chat.
Très important, le chat.
Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est très pince sans rire sur son physique androgyne, je pense qu'il faut la voir pour comprendre. C'est un spectacle qui est plus léger que les autres, mais qui a quand même énormément de charme. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Voilà, je l'aime beaucoup.
Merci pour cette recommandation, Clémentine.
De rien.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors cette semaine, pour la question des auditrices et des auditeurs, on a reçu un message d'Elena qui nous a écrit par mail. D'ailleurs, vous pouvez faire de même et nous envoyer un mail à l'adresse hello@quadmeuf.net. On pourra peut-être vous répondre ici même. Donc Elena nous dit « Je me permets de vous écrire concernant un sujet qui m'est cher et ô combien problématique, la production musicale d'artistes féminines. Je parle en connaissance de cause, je suis moi-même musicienne, compositrice et interprète en parallèle de mon travail. » Je dois admettre qu'il y a encore beaucoup à faire, féministement parlant, dans ce milieu. Il est clairement difficile de se promouvoir en tant que femme dans un milieu majoritairement dominé par la gente masculine. Comment se promouvoir ? Vers quelle structure se tourner quand on ne peut pas avoir affaire à des studios de production principalement constitués d'hommes ? Je me retrouve dans l'impasse. Avec un album en attente d'une douzaine de morceaux, de l'expérience scénique mais peu d'enregistrement, j'ai remarqué que la majorité des personnes et femmes qui réussissent dans ce milieu-là font appel aux copains pour les aider. Mais comment faire pour y arriver seule et surtout sans devoir compter sur un aval masculin ? Je ne sais pas si je suis la seule à rencontrer ce problème-là. N'existe-t-il pas des structures musicales dirigées par des femmes ou qui mettent l'accent sur la parité ? Sinon, pour y arriver seule, par quel biais ?
Ok, bonjour Elena.
Tellement à dire sur ce sujet.
En fait, j'ai envie de dire, tu dis c'est un milieu qui est majoritairement dominé par les hommes, mais en vrai, c'est un peu le cas de tous les milieux, on va pas se mentir. Enfin, quand on parle des niveaux supérieurs.
Oui, des hiérarchies.
Des hiérarchies. Hein. Donc, tous les secteurs, en fait, sont dominés par les hommes. Et je pense qu'il y a quelques règles d'or pour les femmes qui souhaitent se réaliser dans un monde masculin où elles sont sous-estimées et sous-payées. Et cette règle d'or, c'est la sororité.
En plus, c'est gratuit.
Voilà. Donc, la sororité, qu'est-ce que c'est ? C'est se soutenir, se pousser, faire passer un job ou une mission à une copine quand tu sais que t'es pas dispo, par exemple, ou que t'es pas la personne la plus experte sur un sujet. La sororité, c'est se soutenir entre femmes, se regrouper pour s'aider à se faire monter les unes les autres. Donc, c'est concevoir la réussite des personnes de ton réseau comme ta propre réussite, en fait. Parce qu'on est dans une société sexiste. Donc, ça implique aussi d'essayer à ton échelle de rééquilibrer un peu les écarts et les injustices. C'est tout le problème, en fait. On dit souvent qu'on ne trouve pas de femmes compétentes ou expérimentées dans un certain domaine. Moi, alors, je ne connais pas bien le monde de la musique, mais je commence à bien connaître comment ça fonctionne, les discriminations sexistes. Et je sais aussi que les femmes sont souvent soupçonnées d'incompétence par défaut, quoi, en gros.
On ne peut pas leur faire confiance.
Exactement. Et comme, du coup, elles sont soupçonnées d'incompétence, on leur donne moins de boulot, et du coup, elles ont moins d'expérience, et du coup, c'est un cycle vicieux, ouais. En fait. Du coup, travailler avec un réseau féminin, c'est, je trouve, en plus, une bonne opportunité de réunir nos ressources, de nous refiler des jobs, et de nous dépanner les unes les autres, et de mettre en avant notre travail. Donc, tu dis comment réussir seule ? Moi, je pense personnellement qu'on n'avance jamais seule et que se créer un réseau de femmes qui vivent les mêmes choses que toi, c'est essentiel en fait. Tu peux commencer par exemple, te renseigner sur ce qui existe. Moi, je sais que je vois passer beaucoup de collectifs musicaux féminins sur Instagram. Demande aux femmes dans la musique que tu connais, les quelques que tu connais, parce que tu dis qu'il y en a. Et aussi, demande aux mecs du milieu s'ils connaissent des femmes dans le domaine.
Il y a aussi des festivals comme les Femmes s'en mêlent.
Exactement, aussi, c'est vrai. Je pense que mettre la sororité au cœur de ta pratique, ça peut aussi vouloir dire « moi, je suis quelqu'un qui travaille avec au moins 50% de femmes dans tous mes projets ». Voilà, c'est une décision clairement féministe que tu peux mettre en place. Ça sera plus difficile, effectivement, que de prendre les travailler avec les mecs et tout, mais ça peut être quelque chose, vraiment, une décision, quoi. Et pourquoi ne pas créer toi-même ton propre collectif si tu trouves pas vraiment ce qui te correspond? Ça peut prendre la forme d'un compte Instagram ou d'un compte Twitter, d'une newsletter, de réunions même mensuelles que tu peux commencer à organiser localement dans ta ville. Tout est possible, mais je pense que la sororité, pour moi, c'est une des solutions les plus efficaces et qui aussi peut vraiment encourager le féminisme, quoi.
Alors voilà, c'est la fin de l'épisode, mais c'est aussi, hélas, la fin de cette première saison de Quoi de Meuf. En attendant, vous retrouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode.
Alors, on voulait vous dire merci de nous avoir suivis et d'avoir fait de Quoi de Meuf un succès.
Merci.
On est très contentes. Et en attendant de nous retrouver, passez un super été, lisez, discutez et vivez féministe. Et
écoutez des podcasts.
Ouais, plein de podcasts. Refaites-vous la saison de Quoi de Meuf.
Et ne vous épilez pas.
Bisous.
Bye.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quoi de Meuf. Abonnez-vous sur quoidemeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcasts et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quoidemeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye. Quoi de Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.